Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Le journal Afrique avec Édouard Dupénoit. Bonjour Édouard.
Bonjour.
L'actualité donc africaine avec une myriade de questions autour de la République démocratique du Congo.
Que va-t-il se passer maintenant après la rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha? Peut-on espérer un cessez-le-feu dans l'Est? Quand? Sous quelles conditions? Pourquoi le Qatar s'invite-t-il dans ce dossier? Premiers éclairages au début du journal. L'apaisement après la colère. Le Niger se dit ouvert aux négociations avec les entreprises chinoises dont les dirigeants ont été expulsés. La colère des pêcheurs entre le Sénégal et la Mauritanie, eux qui travaillent du côté mauritanien du littoral, mais qui racontent aussi qu'on leur demande de quitter le pays ou d'avoir un nouveau document dont il n'avait jamais été question jusque-là. Nous sommes à Saint-Louis dans quelques minutes et nous sommes aussi au Centre Pompidou, cœur battant de l'art moderne à Paris. Une exposition, une somme de grande ampleur rend hommage à 50 ans d'artistes noirs qui ont fait la culture contemporaine sans que justice leur soit jamais vraiment rendue jusque-là. Après la rencontre donc inattendue entre les deux présidents congolais et rwandais, la nécessaire poursuite d'un long travail diplomatique. Les deux chefs d'État ont eu beau évoquer leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu lors de leur entrevue qatarienne, les combats se sont poursuivis hier dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans le Nord Kivu. Le M23, soutenu par le Rwanda, affronte l'armée congolaise et ses alliés dans la ville de Walikale. Médecins sans frontières déplore qu'une de ces structures ait été endommagée d'ailleurs. Parvenir à un cessez-le-feu, c'est une idée que poursuivent déjà depuis plusieurs mois les différents acteurs sous-régionaux qui s'impliquent dans ce dossier. Et même si la rencontre des deux chefs d'État peut contribuer à faire avancer les choses, Patient Ligodi, le travail reste encore long.
Beaucoup reste à construire. D'abord, la confiance entre Kinshasa et Kigali. Une confiance fragile que l'émir du Qatar tente de renforcer en maintenant un dialogue régulier entre les deux parties. Ensuite, il y a l'appui à la mise en œuvre de ce qu'on peut désormais appeler le processus de Dar es Salaam. Et pourquoi ces noms? Parce que c'est dans la capitale tanzanienne que le 8 février dernier, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont annoncé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Objectif, unifier les efforts régionaux pour pacifier l'Est de la RDC. Mais la fusion reste à formaliser. Et d'ici au 31 mars, le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto, doivent se rencontrer pour entériner cette fusion. Ils doivent aussi échanger avec les trois facilitateurs désignés pour accélérer le dialogue politique. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien. Leur mission, faciliter les discussions entre Kinshasa et Kigali, mais aussi avec les groupes armés actifs dans l'Est congolais. Le 17 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC ont proposé une feuille de route qui donne 30 jours aux parties prenantes pour asseoir un véritable cessez-le-feu avec des engagements concrets et un mécanisme de suivi sur le terrain.
Patient Ligodi, l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui encore reste de comprendre pourquoi et comment le Qatar a pu réussir un tel coup diplomatique là où le dernier entretien entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en face à face remontait à février 2024, entrevue glaciale en marge d'un sommet de l'Union africaine à Addis. Comment donc l'émir Altani a-t-il pu les réunir dans une même pièce pendant plus d'une heure avec d'ailleurs une photo publiée sur les réseaux sociaux? Benjamin Auger est chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et il explique que Doha n'a en fait que des alliés potentiels à tirer de cette histoire.
Le Qatar n'a pas vraiment une politique africaine très déterminée, mais en revanche, il a une relation très très forte avec ces deux pays-là. Au Rwanda, le Qatar fera le plus gros investissement qu'ils aient jamais fait sur le continent africain avec le futur aéroport qui est financé par Qatar Airways à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Et il y a eu aussi énormément de visites au Congo, notamment dans les questions portuaires, aéroportuaires, pour voir un petit peu comment l'écosystème qatarien pouvait investir au Congo. Donc la relation en fait entre l'émir du Qatar et Félix Tshisekedi ou avec Paul Kagame est assez bonne. Félix Tshisekedi à plusieurs reprises a demandé l'aide du Qatar pour pouvoir essayer d'avancer dans la médiation avec le Rwanda. La problématique c'était de déterminer si vraiment le Qatar était à équidistance des deux partenaires ou si le Qatar était plus proche du Rwanda que de la RDC. ces derniers temps, on avait l'impression que la vision à Kinshasa, c'était que les Qatariens s'étaient trop rapprochés des Rwandais. Et puis finalement, vous voyez ce qui s'est passé. C'est finalement le Qatar qui a été le seul à pouvoir mettre à la même table les deux acteurs qui ont quand même beaucoup de choses à se dire en direct, mais qui n'y arrivent pas.
Benjamin Auger de l'Institut français des relations internationales avec François Mazet. Un mot encore sur la République démocratique du Congo et cette spectaculaire éruption nocturne hier soir. Le Nyamulagira qui crache des colonnes de lave, mais l'observatoire volcanologique de Goma indique que la roche en fusion s'écoule vers le nord et vers le parc des Virunga et qu'aucun risque ne pèse donc sur la capitale du Nord Kivu ni sur ses habitants.
RFI.
L'armée nigérienne annonce la mort de 13 soldats dans deux attaques terroristes bien distinctes. L'une survenue lundi dans la zone de Difa, elle a été attribuée à Boko Haram et les militaires nigériens assurent avoir mené d'ailleurs une lourde riposte. La seconde survenue deux jours auparavant, samedi donc dans le Tillaberi et cette fois-ci contre des combattants liés au groupe État islamique. Le Niger, où la transition adoucit considérablement ses positions vis-à-vis des sociétés chinoises. Une semaine après avoir expulsé les directeurs de la SORAS, de la CNPC et de la WAPCO, le ministre du pétrole de la transition appelle désormais à la négociation en assurant que Niamey n'a aucune envie de rompre Esdras Dikoumana avec un partenaire aussi important.
Sans mentionner la sévère pénurie d'essence qui sévit au Niger, ni la dette de quelque 300 milliards de francs CFA qu'est la Sonitep, la société gérée par l'État qui écoule le pétrole, doit à la SORAS, la société chinoise qui raffine et lui vend son carburant. Le ministre Sahabi Oumaro a uniquement évoqué, pour la première sortie d'un membre du gouvernement sur la question, les grèves de la junte à l'endroit des trois sociétés chinoises, uniformisation des salaires des expatriés chinois et du personnel local, les premiers tournent autour de 8 600 $ par mois contre 1 200 $ pour les seconds, la nigérisation du personnel selon ses propres termes, la révision des contrats qui lient l'État aux trois sociétés ou encore le remboursement de 80 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts. Mais face au refus de la partie chinoise de céder à ses exigences, le ministre du Pétrole s'est dit prêt à négocier en tentant de rassurer des partenaires qui n'ont pas digéré le traitement réservé aux trois directeurs expulsés du pays. En rétropédalant, explique une source, Niamey veut éviter la rupture avec la Chine, premier et plus grand investisseur au Niger, d'autant que le pays tire aujourd'hui la plus grande partie de ses revenus des trois sociétés sous contrôle chinois.
Esdras Dikoumana, 6h37 à Niamey, 1 heure de moins à Dakar et à Nouakchott, le Sénégal et la Mauritanie, où les critiques s'élèvent en plus désormais sur le sort réservé aux pêcheurs. Déjà depuis 3 semaines, des opérations d'expulsion massive de personnes en situation supposément irrégulière alimentent les critiques des ONG. Des migrants refoulés de Mauritanie alors qu'ils attendent leur titre de séjour, des gens arrêtés à domicile et traités dans des conditions indignes. Mais les responsables du secteur de la pêche artisanale s'alarment à leur tour. Ils alertent sur une série d'interpellations de pêcheurs qui travaillent sur le littoral mauritanien. Léa Lisa Vesterov s'est donc rendue à Saint-Louis pour entendre cette colère.
Assis sur des bancs face à la mer, ils sont 5 à parler des problèmes que rencontrent actuellement les pêcheurs en Mauritanie. Moussa Diène, membre du syndicat autonome des pêcheurs au Sénégal, raconte ce qu'il a vu à Nouakchott au début du mois.
Là-bas, les pêcheurs vivent le calvaire. Un pêcheur qui sort de chez lui pour aller se procurer de la nourriture à la boutique, il t'embarque, il t'amène au poste, il vous demande des sous. Vous donnez des sous avec les verts.
Mais quelquefois, l'argent n'est pas suffisant, comme le raconte Fally Sek, pêcheur, qui a quitté la Mauritanie au plus vite, lundi.
Ils m'ont demandé si j'avais une carte de séjour. J'ai répondu, j'ai pas de carte de séjour, mais si vous m'indiquez où trouver cette carte, j'y vais directement. Mais les Mauritaniens ont dit qu'ils avaient arrêté l'attribution des cartes de séjour.
Sans carte, celui qui est aussi président de la commission jeunesse de l'Union nationale des pêcheurs a préféré quitter la Mauritanie au plus vite plutôt que de risquer une nouvelle arrestation. Mais il enrage face à cette exigence contradictoire des autorités mauritaniennes. Moussa Diène, du syndicat des pêcheurs aussi.
Un pays souverain a le droit de rétablir ses lois, mais ils doivent respecter les personnes. Demander un papier de séjour à un pêcheur qui est tout couvert d'un opérateur mauritanien et le refouler, ça, c'est pas une bonne coopération. Vraiment, c'est pas bon.
Combien de pêcheurs sénégalais ont été arrêtés ou refoulés? Aucun chiffre officiel ne circule. Un rapport parlementaire faisait état la semaine dernière de 400 Sénégalais sans papier, détenus dans des conditions précaires en Mauritanie. Dans l'immédiat, les pêcheurs sénégalais appellent les autorités à trancher au plus vite cette question de carte de séjour pour pouvoir retourner travailler sans crainte d'être arrêtés ou expulsés. Léa Lisa Vesterov, de retour de Saint-Louis, RFI.
De nouvelles réactions politiques en Côte d'Ivoire après la publication de la liste électorale provisoire. Vous entendiez peut-être hier la colère du PPACI de Laurent Gbagbo contre l'absence sur cette liste de leur candidat désigné pour la présidentielle, contre aussi la présence alléguée de doublons ou d'électeurs décédés. Le COGEP cette fois, le parti de Charles Blégoudé, fait entendre d'autres récriminations, tandis que du côté du RHDP au pouvoir, on rappelle que cette liste est provisoire et qu'elle peut donc être contestée. Abdoulaziz Diallo.
Le porte-parole du COGEP, maître Serge Ouraga, dénonce ce qu'il qualifie d'irrégularité flagrante. Il évoque notamment des changements inexpliqués de lieu de vote par rapport au centre d'enrôlement. Concernant l'absence de Charles Blégoudé sur cette liste, le COGEP dénonce une volonté délibérée d'exclusion. Maître Serge Ouraga.
Il ne faut pas que le pouvoir en place donne l'impression qu'il se choisit ses adversaires. C'est un mauvais message qui est envoyé à la population, à ceux des Ivoiriens qui se reconnaissent dans ces leaders qui sont écartés. Nous espérons donc que nos réclamations vont porter leurs fruits.
Du côté du RHDP, le parti au pouvoir annonce l'organisation d'un congrès en mai et l'investiture prochaine d'Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle. Ce dernier ne s'est toujours pas prononcé. Quant aux accusations de l'opposition, le porte-parole du RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani, invite ses adversaires à apporter des preuves lors de la phase de contentieux électoral.
La liste électorale soulève tellement de débats passionnés, voire des fantasmes du côté de l'opposition, que nous pensons que celle-ci a là l'occasion unique de verser les résultats de ces fameuses recherches au dossier.
Autre absent de la liste électorale, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre en exil. Dans un communiqué, son mouvement Génération et Peuple Solidaire exige sa réintégration, s'appuyant sur une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
L'actualité africaine qui, une fois n'est pas coutume, nous emmène au centre de Paris, puisque depuis hier, le centre Pompidou accueille une exposition d'envergure, Paris noir, qui retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France entre 1950 et 2000. 50 ans, 150 artistes, pour la plupart méconnus. Leurs œuvres n'ont bien souvent jamais été montrées en France. Ils viennent d'Afrique, des Caraïbes ou encore d'Amérique du Nord. Isabelle Chenu.
Cette histoire n'a pratiquement jamais été racontée en France. Elle a toujours été négligée, c'est un angle mort de l'histoire de l'art, et aujourd'hui elle fait retour dans une narration, je dirais, plus équilibrée, qui n'invisibilise pas une catégorie d'artistes.
Florence Alexis défend depuis longtemps la création africaine et caribéenne à Paris. Elle a accompagné l'exposition Paris Noir. Sur 2000 mètres carrés, 300 œuvres se déploient pour combler une lacune, montrer les styles et la production d'artistes noirs venus depuis les années 50, étudiés, créés à Paris, pôle naturel d'attraction artistique et métropole coloniale. Ils sont originaires d'Afrique, des Caraïbes ou d'Amérique du Nord, en proie alors à la ségrégation raciale. L'exposition est construite comme un réseau permettant de mieux comprendre le travail de 150 d'entre eux. Eva Barois de Cavel est commissaire associée de l'exposition Paris Noir.
Qu'on arrête de considérer ces œuvres comme des détritus de la modernité, pour le dire très violemment, qui est quand même une chose qui continue à être entendue. Et j'espère vraiment que cette exposition, par son ampleur, sa richesse et sa beauté, va poser ça de façon irréversible.
Paris Noir sera une exposition de découverte pour les visiteurs et pour les professionnels de l'art. Elle a nécessité un travail d'enquête impressionnant qui a permis de reconstituer des parcours aussi divers que singuliers.